Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde.
Salut à tous les auditeurs et à toutes les auditrices, vous écoutez RDIWA 107.5.
La pensée des peuples par explorer les médecines, les maladies et la guérison.
Qu'est-ce que viennent interroger les maladies qui nous atteignent ?
Sur le site wimystique.fr, les guérisseurs, leur histoire à travers le monde. La préhistoire. Guérisseurs et chamans utilisaient déjà les plantes. L'histoire des guérisseurs dans le monde débute dans les grottes. Des objets ont été retrouvés, prouvant que des rites avaient régulièrement lieu. Religion et guérison étaient alors étroitement liées. Des plantes servaient à soigner les maladies, aussi graves que la malaria ou la tuberculose. Des outils primitifs réalisés avec des pierres de volcans ou de météorites étaient utilisés pour lutter contre la douleur, par simple apposition sur la zone malade. Les silex néolithiques pouvaient par exemple servir à trépaner un crâne. Des représentations de ces actes de guérison sont encore visibles dans les peintures pariétales, retrouvées en France ou ailleurs en Europe. Si chaque tribu, chaque sorcier, chaque chaman avait ses propres méthodes, beaucoup de gestes se recoupent. L'Antiquité. Les guérisseurs sont reconnus et respectés. Les premiers guérisseurs de l'Antiquité utilisent aussi la magie et des paroles sacrées, faisant penser aux prières religieuses. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les guérisseurs soignent par des incantations, mais aussi en appliquant des onguents et en réalisant des filtres à base de plantes. Ils se servent de leurs mains et de leur esprit pour soulager et apporter le réconfort. Les apprentissages et les savoirs sont inculqués aux générations suivantes, et de nouvelles pratiques apparaissent progressivement. Ainsi, les actes thérapeutiques se multiplient. Et plus les siècles avancent, plus les hommes cherchent des explications scientifiques aux soi-disant miracles réalisés par les guérisseurs et autres soigneurs, n'utilisant pas la médecine conventionnelle. Les guérisseurs dans les îles du Pacifique. Les guérisseurs philippins sont appelés guérisseurs aux mains nues. Ils pratiquent la chirurgie psychique. Les premières traces de ces actes remontent au début des années 1940. Et les adeptes de ces méthodes parlent alors de miracles de Dieu. La chirurgie psychique consiste à pratiquer une intervention chirurgicale sans instrument.
Dans les contes et légendes des Indiens d'Amérique, de Vladimir Ulpach, maladie et médecine. Bêtes et gens vivaient en paix côte à côte, sans s'importuner mutuellement. Jusqu'au jour fatal où les premiers Indiens, cupides, se sont mis à tuer les animaux pour vendre leur chair et leur fourrure. Castors, loutres, cerfs et bisons virent rapidement décroître leur nombre. La situation devint si grave qu'un jour, l'ours blanc convoqua les animaux à un grand conseil. Les animaux voulaient se venger des hommes, mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le meilleur moyen à employer. Les ours prenaient la guerre en brandissant arc et flèches. Seulement, il leur fallut constater que leurs longues griffes les empêchaient de tirer convenablement. Les oiseaux proposaient d'emporter au loin les wigwams des méchants chasseurs. Le castor, lui, estimait qu'il suffisait de ronger le fond de leur canot. Les mouches, elles aussi, étudièrent le problème. Très excitées, elles bourdonnaient dans un tronc creux du voisinage. Quand plus personne n'eut dit des nouvelles à présenter, la plus vieille et aussi la plus sage de toutes les mouches se leva et prit la parole devant tous les animaux rassemblés. « Nous allons demander aux esprits d'envoyer la maladie aux Indiens, qui vous font du tort. Nous, les mouches, nous nous chargerons de répandre le mal. » La proposition ayant été acceptée, l'ours blanc déclara que la séance était levée. Et l'assemblée se dispersa. Chacun s'enfuit vers son logis respectif, se demandant ce qui allait arriver. Ils le surent bientôt. La maladie ne tarda pas à s'abattre sur les villages des Indiens. Elle ne choisissait pas ses victimes, elle s'attaquait à tous ceux qu'elle rencontrait. Désormais, plus personne n'allait à la chasse. Couchés dans leur wigwam, les gens mouraient, en grand nombre, les bons comme les mauvais.
Cela fit de la peine aux animaux. Ils n'avaient pas souhaité que tous les Indiens sans distinction soient malades. Ils se mirent alors à réfléchir sur le moyen de sauver les hommes, demandant leur avis à tout un chacun. La solution vient d'un côté où l'on ne l'attendait pas. Des plantes. Nous avons un pouvoir curatif, disaient les fleurs et les herbes de la forêt, comme de la prairie. Nous allons guérir les malades. Apprenant cette bonne nouvelle, les Indiens quittèrent leur wigwam et se hâtèrent d'aller cueillir le thym sauvage, la centaurée, les feuilles de fraisier, la racine de fougère et toutes sortes d'autres herbes, espérant que ces simples leur rendraient la santé. Et quand ils hésitaient sur la plante à utiliser contre une certaine maladie, les bons esprits dissimulés dans les fleurs leur murmuraient à l'oreille ce qui convenait. C'est ainsi que fut découverte la médecine. Les hommes à la peau rouge avaient compris que, dans la nature, la moindre petite chose peut être utile.
Maladie de Kamal Zerdoumi. Désert, une vie où s'effacent les visages, une mémoire sans se passer, magnifiée ou maudit. Un présent hors du temps, la silencieuse anarchie, et la danse macabre de l'absence de repère. Alzheimer, un nom pour définir l'indéfinissable, ce supplice inconscient d'identité dévastée, cette étrange agonie de n'être plus personne.
Rushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make art your alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. And woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest. Some plug you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us from the garden to the farthest. Pray you're made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes out, there's the setting of the sun. Give thanks to each and everyone. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face and I trust your hand. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face and I trust your hand.
Back into the messages and action. The art is feeding, stop, stark the disbelieving. Cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection.
Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evidence, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face and I trust your hands.
Que ton aliment soit ta seule médecine, Hippocrate. La nature ne semble guère capable de donner que des maladies assez courtes, mais la médecine s'est annexée l'art de les prolonger, Marcel Proust. Les contes des sages aborigènes de Céline Ripoll. Le fils du guérisseur. Le passé n'est pas clos, il est là dans le présent, prêt à surgir. Dis à ton fils qu'il vienne près de toi, comme mes paroles viendront à tes oreilles. Il y a ce qu'il voit, il y a ce qui est. Dans les chemins du temps et de l'espace, certains se sont perdus à tout jamais. Tiens ton fils contre toi, qu'il ne soit pas tenté par le monde que mes paroles vont rapporter. Tous savaient qui il était. Dans son regard s'étendait l'immensité de la terre. Dans ses mains, le pouvoir de guérir, d'éloigner la magie noire, de démasquer les responsables des morts prématurées. Dans ses paroles résonnait la grandeur du passé mythique. Sa barbe entourait une bouche qui prononçait peu de mots, mais toujours les mots justes, des chants sacrés, des paroles murmurées pour le monde invisible. Son torse était lacéré de cicatrices droites, comme l'horizon. Deux interminables cordelettes de cheveux s'enroulaient sur ses biceps. Une troisième enserrait sa taille. En grand initié, cet homme médecine emmenait tous les jours son fils avec lui, à l'écart du campement. Ensemble, ils restaient assis la journée durant, afin que le jeune s'emplît du savoir. Des mots et des silences du monde qui soignent le monde. Un jour, le jeune homme questionna son père. « Père, si nous avons des jambes, c'est bien pour aller d'un endroit à un autre, n'est-ce pas ?» Le père ne répondit pas. Pourquoi es-tu toujours assis? Tes jambes sont-elles si longues que tu as peur du vide? Rien n'est vide autour de moi. Je ne suis pas juste assis, mon fils, dit l'homme sans ouvrir les yeux. Je suis assis et je pense. Je vais d'un endroit à un autre, c'est dans le silence, loin des bruits et de l'agitation, que viennent les visions. On ne peut rester dans le bruit, car dans le bruit, on ne se remplit que de bruit. Le silence n'est pas du vide. Le jeune homme était fatigué, là de ses journées passées assis sur les rochers, à n'écouter que le vent. Il ne voyait rien que la terre rouge et le ciel bleu. Aucun des voyages mythiques des ancêtres ne s'animait devant lui. Il ne voulait plus des gestes pesés, des mots comptés, assis les jambes croisées, le dos droit. Il voulait être comme tous les autres garçons de son âge. Il voulait bouger, parler toute la journée, tailler des lances, voir les sourires quand il rapporterait du gibier. Il voulait chasser. « Mon fils, tu n'as pas besoin de chasser pour te nourrir. Ferme les yeux, et viendront à toi toutes les nourritures du monde. Mon fils, il est temps que tu arpentes les chemins des grands ancêtres, pour devenir celui qui s'élève dans le ciel, celui qui s'enfonce à travers la terre. Pour cela, il te faudra accepter de voir les arbres encore enracinés se courber, le vent tourbillonner et les eaux se déchaîner. Tu devras accepter de voir les collines se déplacer, les nuages descendre sur la terre, les éclairs, le tonnerre. Tu devras résister à la peur d'entendre craquer les os des esprits, te rendant visite. Résister à la compagnie des esprits malfaisants qui rôdent. Tu devras soutenir la vision de tes viscères exposés à la nuit, pour ensuite les voir replacés en ton sein. Une fois ces visions reçues et endurées, tu n'auras plus l'envie d'aller chasser,
car ton esprit sera nourri. Mais mes jambes veulent marcher, mes yeux veulent chercher l'animal dont les empreintes marquent le sable, non celui qui habite mon esprit. Aurais-tu peur de voir ce que les autres ne voient pas? Ici, tu as tout ce qu'il faut pour te nourrir. Les chasseurs savent ce qui est bon pour nous, ou pas. Toi, tu ne sais pas encore t'entretenir avec les esprits? Sauras-tu distinguer la bonne nourriture qui laisse l'esprit sur la terre, de cette nourriture qui l'emporte vers l'illusion? Chasser n'est pas ta fonction. Tu ne peux pas changer. Ce serait te soustraire à tes devoirs. Toi, tu dois voir, et pour voir, tu dois d'abord mourir. Ce n'est pas vers la mort que je veux aller, mais à la chasse. Laisse-moi essayer. Tu es sourd, mon fils, je ne peux rien pour toi. Alors va et sois. C'est ainsi que le fils du guérisseur suivit les autres chasseurs. Au début, joyeux de ce qu'il vivait, il eut très vite envie de chasser, seul, pour prouver à son père de quoi il était capable. Un soir, alors que le soleil terminait son chemin dans le ciel, il partit en direction des collines. Il marcha, sa lance à la main, jusqu'à ce que ses yeux ne distinguent plus que les plantes qui se présentaient face à lui. C'est alors que le vent se mit à souffler, les collines s'ouvrirent, laissant sortir de leur antre des esprits, avides de nouvelles proies. Ils vinrent à la rencontre du jeune homme. « Que fais-tu ici ? » questionna une voix dans l'obscurité. « Je cherche une nouvelle nourriture, » répondit le jeune homme, pensant avoir rencontré d'autres chasseurs. « Viens avec nous, nous avons tout ce que tu cherches dans notre repère. » Curieux et enjoué d'une telle proposition, le jeune homme les suivit, sans hésiter. Très curieusement, ils n'entendaient pas le bruit de leurs pas, juste celui des herbes qui se pliaient sur leur passage. Mais il n'y porta pas plus d'attention. Ils entrèrent dans le flanc d'une des collines, en passant à travers la roche, et se retrouvèrent dans une grotte. Dans un éclat aussi lumineux que celui du jour, le jeune homme découvrit une foule de vieillards couverts de motifs peints, chantant et dansant. Il y avait incrusté dans les parois des pierres extrêmement brillantes. Nombreuses étaient celles tombées sur le sol. Elles étaient piétinées dans la plus grande indifférence. Le jeune homme en ramassa une, elle était froide. L'esprit qui l'avait guidée la saisit et la lui posa contre la poitrine. La pierre y pénétra sans laisser aucune trace. Le jeune homme avait la tête qui tournait, on l'invita à s'asseoir. Un homme lui coupa un morceau de kangourou brasillant à l'aide d'un couteau de pierre bleue. On lui servit de gros vers blancs. Il y avait de grands lézards, des patates douces, des prunes sauvages et diverses baies disposées dans des plats en écorce. Le jeune homme n'en finissait pas de manger, de se distraire de tout ce qu'il y voyait. Si bien qu'il n'eut plus l'envie, ni l'idée de repartir. Le temps semblait s'être arrêté dans ce monde de lumière où fête, abondance et insouciance se mêlaient. Au petit matin, ne voyant pas son fils revenir, le père se plongea dans une longue méditation. Le jour déclinant, son fils toujours absent, il se leva et marcha en direction des collines. Se dressant face à elle, il ferma les yeux, s'appuya sur sa lance, posa son pied gauche sur son genou droit. Il resta ainsi longtemps dans le silence, dans la grande obscurité. Puis, quand il fut silence et obscurité lui-même, il sut, il le vit. Et sa vision était nette. Il se tenait maintenant dans la grotte, face à son fils perdu, au milieu de la foule. Il commençait déjà à prendre l'allure famélique des esprits qui l'entouraient. Revenant au silence et à l'obscurité, l'homme médecine fit naître en lui-même une mélopée. Il ordonna à ses cheveux d'aller chercher son fils. Et ceux-ci s'allongèrent. Ils descendirent le long de son dos, atteignirent le sol, puis serpentèrent parmi les herbes. Dans une parfaite immobilité, le père chantait toujours, tandis que ses cheveux pénétrèrent le flanc de la colline. Il chanta encore, et s'insinuant dans les chemins des racines des arbres du passé, les cheveux atteignirent la grotte et vinrent s'enrouler aux poignets de son fils. Au même instant, musique et danse se figèrent, et la vision d'abondance, qui éblouissait le jeune homme, laissa place à un monde macabre, fait de squelettes aux haleines fétides, prisonniers d'un air irrespirable, poussant des cris et des râles. Voyant leur proie leur échapper, les esprits malfaisants piétinèrent la nourriture devenue pétride pour s'accrocher aux cordes de cheveux. Leurs ongles pénétraient dans la peau du jeune homme et tentaient en vain de défaire ses liens. L'initié qui avait déjà arpenté les chemins vers des mondes invisibles, chanta encore et encore, et la puissance de son chant extirpa son fils hors des collines, sain et sauf. De nombreuses années plus tard, après avoir passé les cycles des initiations, après une mort et une résurrection, ce fils devint à son tour homme médecine. La vision des morts l'avait fait passer de la condition humaine au monde spirituel. Les cristaux de quartz qu'il avait ramassés dans la grotte et qui avait pénétré son corps, l'avait rendu puissant, capable de voyager par-delà le temps. De nombreuses fois, il chanta à son tour pour retenir les plus jeunes, ou les ramener du cœur des collines sur leur propre chemin, révélant à leurs yeux le fourvoiement qu'est la fièvre de l'abondance et de la facilité. Vous vous êtes laissé capturer par cette nourriture facile. Ce n'est pas cela l'évolution, disait-il, à se tenter par l'aventure. Ce n'est pas l'évolution, mais l'illusion de l'évolution. La facilité immédiate vous rendra vide d'usage et de coutume. Creux comme un arbre sec aux fruits stériles. C'est lorsque les racines bravent le sol dur et rocailleux pour parvenir jusqu'aux nourritures anciennes que le fruit prend alors sa sapidité. Devenez ces pères solides, nourris de la rudesse et de l'exigence de la vie, par votre courage et votre persévérance. À votre tour alors, vous pourrez retenir vos fils au tempérament curieux. Ne laissez pas leurs âmes en errance. Transmettez-leur votre force, mes frères. Ne cédez pas au vide.
Dans le livre « Médecine du monde » de Claudine Brelet. La santé est un état de l'homme en harmonie avec son environnement, naturel, social, spirituel, et plus largement avec l'univers. La maladie est le témoin d'une rupture de cette harmonie.
Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Je prends le métro dans la voiture de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les jours se ressemblent et putain que c'est triste à mourir quand on n'a rien pour soi que l'échec de fin de mois. La télé, le canapé, le crédit à payer. Je vais les rues, je vais les lieux où on ne m'attend pas. Ce que je croise au fond des yeux n'en est même je parle à des gens comme moi qui n'ont l'air de rien. Des esclaves en muselière qui n'en pensent pas moins. Je paie la mort, je paie la pierre, je paie celui qui existe. Mais dans l'ombre du miroir je ne vois que du triste. Parano dans les rues, putain je parle seul. Toxico au pognon, je vais droit au cercueil. En or s'il vous plaît je voudrais qu'on m'inhume. Mais j'ai les moyens que de la fausse commune. Un jour c'est vrai je vais finir par me trouver un flingue. Et je descendrai dans la rue si tu veux je déclare. Je suis un homme moderne. Je me cogne la tête et j'essaie de m'enfuir. Mais le mirror d'orquette, le mirror d'orquette. Je sais qu'il me regarde en audio des satellites. Dans mes rêves d'Amérique, moi je tente de fuir. Le lendemain qui m'attend, le couteau dans le dos. Je sais bien au fond de moi même qu'ils veulent me faire la peau. Trois jours dans le métro, moi je suis le troupeau. Direction l'abattoir, cap ou patte sur le dos. Ils me mettront comme ils ont mis mes parents et les tiens. Actionnaire nage avec les dauphins. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Je prends le métro dans la main, je rêve de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Moi de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les choses se ressemblent et putain que c'est triste à mourir. Quand on n'a rien pour soi que le chèque.
Dans les chewing-gums, des cachets pour maman, des antidépressions. Du Viagra pour les vieux et des calmants pour les enfants. Neuroleptiques, toujours sûr qu'on cherche le jour. Où nous verrons lumière dans tant de contre-jours. Société sépare d'une nos amours sous tranquillisants. Qui sommeille dans les cœurs des métros de perdants. Qui conviendra le jour où nous retrouverons flamme. Ici tout est fini, Paris n'est plus Paris. Chez les gauchistes dans la droiture, chez les anards de mon pays. Y'a que les télés qui s'allument et les filles qui disent oui.
dans le livre L'herboristerie de Patrice de Bonneval. Nous vivons la diminution de communication intérieure et directe d'homme à homme. L'homme a perdu le contact avec la nature. Nombre de jeunes ne savent plus ce qu'est la joie de vivre avec et dans la nature. La maladie, de curieuse manière, est devenue, pour le plus grand nombre, l'ennemi qu'il faut éliminer, sans réfléchir à sa signification. Nous, les herboristes, recherchons pourquoi l'homme est malade et comment éviter le retour à la maladie. Pour nous, la maladie est signe que quelque chose ne tourne pas rond dans notre manière de vivre, de nous nourrir ou de nous occuper de nous-mêmes. La crise de l'évolution de mouvement, les instants de douleur qu'elle nous force à vivre pour ne pas tomber plus loin et remonter la pente afin de vivre le mieux possible. L'herboristerie est une médecine globale prenant en compte l'homme dans son contexte social et culturel. La maladie n'arrive pas sans raison, elle est le résultat de notre passé et de notre comportement quotidien. Du noir par Bip. Les papillons de nuit tournent autour de ton cœur, ton regard enfantin estompe sa pâleur. De tes yeux coule l'amour comme au temps de la guerre, alors que les vautours s'affalent sur ta chair. Dans le reflet du noir s'inventent des vestiges, tout au fond des tiroirs ta mémoire les dirige. Le miroir est brisé et tu entends venir l'horreur de ton passé, un lointain souvenir. Ton âme artificielle s'agite dans la cage. Les violons dans le ciel se perdent dans les cordages. Les papillons de nuit apaisent ton angoisse. Ton regard leur sourit, leurs ailes se défroissent.
À peine 20 ans, quand la vie t'a dit va-t'en. Atteint d'un cancer, pas pris à temps.
Fallait que je te dise quelque chose. Tu sais, j'ai le cancer et ici rien n'est jamais rose. Je sais, je l'ai caché, je ne voulais pas vous inquiéter. Mais sont rares ceux qui ne gardent pas leur fierté. À l'instant où je te parle, il me reste quelques minutes. La vie suit son cours, il faut que tu continues ta route. Si tu veux me rendre fier, fais que tes enfants gardent en tête l'image de ce personnage prêt à gravir les échelles. Échoué face à la maladie et la pire de mes défaites que je n'ai jamais commises, s'il te plaît. Prends soin des gens qui me sont chers, de là-haut ça me déplairait. De les voir plus bas que terre ne te sert pas de mon départ comme excuse pour niquer ta vie. Ne comble pas l'absence par l'alcool ou le tushy. Tu m'as toujours protégé et évité des écueils. On inverse les rôles, sur toi je garde un œil.
À peine 20 ans, quand la vie t'a dit va-t'en. Atteint d'un cancer, pas pris à temps. Un vrai battant, malgré que la vie t'ait mis des coups de bâton. Tous dans le même bateau, au fond on est tous des combattants.
Hey, attends, à 20 ans quand la vie m'a dit va-t'en. Atteint d'un cancer qui n'est pas pris à temps. J'ai combattu et malgré les coups de bâton, avance de l'avant et surtout reste un peu partant.
Si j'écris ces mots, c'est qu'il te reste peu de temps à vivre. Et dans ces lignes, je me livre le cœur froid tel un esquimau. Est-ce qu'il vaut le coup de vouloir t'esquiver? J'en ai l'impression de te voir, me fout la pression. La boule au ventre, j'en ai la chair de poule. À l'heure où je t'en parle, j'en ai même les larmes qui coulent. T'es mon poteau, mais pourquoi la vie t'a été ôtée? Je sais que c'est muté, mais tu es parti trop tôt. La vie t'a pas fait cadeau, elle t'a souvent bâclé, mené en bateau pour pouvoir mieux te tacler. T'as su te relever, t'as toujours été fort. Et même après la guerre, tu as su trouver du réconfort. Comment cette maladie est sortie de l'enfer? Ce cancer a su te trouver, t'emmener au paradis. J'en ferai pas une parodie, non, j'en ai juste pas envie. Car à l'heure actuelle, tu serais encore en vie. À peine 20 ans, quand la vie t'a dit va-t'en. Atteint d'un cancer, pas pris à temps. Un vrai battant, malgré que la vie t'ait mis des coups de bâton. Tous dans le même bateau, au fond. On est tous des combattants.
Hey, attends, à 20 ans quand la vie m'a dit va-t'en. Atteint d'un cancer qui n'est pas pris à temps. J'ai combattu et malgré les coups de bâton, avance de l'avant et surtout reste un vrai battant.
T'as combattu jusqu'à ton dernier souffle. T'as préféré partir. C'est vrai que je n'aime pas quand tu souffres. De nouvelles portes s'ouvrent. Autour de toi, c'est le souk, ça sent le souffle. T'as peur d'être tombé au bord du
gouffre. La route est longue et le chemin ne se fait pas sans embûches. Malheureusement, on ne choisit pas quand on aimait son dernier souffle. Sous la tristesse et la haine, tu ne dois pas te plier. Reste fort et rends-moi fier. T'as une famille à élever.
On est amis pour la vie. Et même si tu es parti, moi j'en parle avec le cœur. Regarde ces vieux souvenirs. Mais dis-moi ce que je vais devenir si ma vie n'a plus aucun sens. À tomber dans les pommes, j'en perds connaissance. Perds connaissance. Perds connaissance. À peine 20 ans, quand la vie t'a dit va-t'en. Atteint d'un cancer, pas pris à temps. Un vrai battant, malgré que la vie t'ait mis des coups de bâton. Tous dans le même bateau, au fond on est tous des combattants.
Hey, attends, à 20 ans quand la vie m'a dit va-t'en. Atteint d'un cancer qui n'est pas pris à temps. J'ai combattu et malgré les coups de bâton, avance de l'avant et surtout reste un vrai battant.
Cancer de Sybille Rambard. Renaissance, de nouveau tu te présentes. Jardin juxtaposé, troupe de la sève. T'emparer du corps, du cerveau, au thorax, tu veux scanner son esprit. Les larmes coulent sur le visage d'une femme. Elle sait, elle connaît la vérité, la solitude. Elle respire la décadence imminente, elle crie son amour. Tentacules méprisants s'entortillant autour des ganglions. Sans pitié, tu convoites tout l'être. Il t'attend depuis toujours. Depuis le jour où tu es parti avec son odorat, ne lui laissant plus absorber le parfum du monde, rendant chaque jour immanquablement le dernier.
Dans le livre « La guérison du cœur » de Guy Corneau. D'une certaine façon, il m'a fallu 20 ans pour entendre ce que ce psychiatre original avait à me dire. Il m'a fallu bien des crises et bien des mises en échec pour commencer à penser que ma maladie était, de fait, la partie la plus saine de ma personnalité. Je comprends aujourd'hui que cet homme avait une vision globale de l'être et qu'il voyait la maladie physique comme un signal d'alarme manifestant un déséquilibre profond dans la gestion des forces vitales. Pour lui, se mettre à l'écoute des symptômes dont il avait un profond respect signifiait se mettre à l'écoute d'une partie inconsciente de soi qui n'a pas le droit de participer à l'aventure de la conscience et qui manifeste par des mots son état d'emprisonnement. La question centrale que Claude Sabat pose est la suivante. À quoi donc sert la maladie ? Paradoxalement parlant, elle sert à nous sauver la vie, répond-il. Elle est un moyen que le cerveau emploie pour répondre à un stress qu'il n'arrive plus à gérer au niveau psychologique. Un stress qui pourrait submerger entièrement la personne et l'entraîner vers la mort. Car on peut mourir beaucoup plus vite de peur que de cancer. En d'autres termes, si le cerveau, dont la programmation de base est d'assurer la survie, doit choisir entre un stress permanent qui risque de faire mourir la personne en quelques mois et une mort lente que représente le cancer, il choisira la mort lente, qui prolongera la vie le plus longtemps possible. Le cerveau choisit donc de supprimer la pression psychologique parce que celle-ci est plus insupportable que toute maladie. En fait, dès que la maladie commence, la peur disparaît chez le sujet. C'est qu'elle sombre dans le corps. La maladie apparaît donc comme le meilleur programme de survie lorsqu'un conflit met en danger l'intégrité physique et psychique d'un individu. La vivacité de la maladie nous invite aussi à faire en sorte de préserver notre vitalité. Et pour cela, nous devons tenter de réduire l'influence de ce qui l'éteint, l'alourdit et la mortifie. Je demande à Marie-Lise Labonté ce qu'elle fait elle-même quand elle est malade. Dès qu'elle connaît des pointes d'inflammation, elle annule tout et se retire pour se mettre complètement à l'écoute de son corps. « Il n'y a rien d'autre à faire que ça », dit-elle. « Je vais là où le corps veut m'emmener. S'il faut rester 2 semaines couchée, je le fais. Si je ne le fais, je sais que je provoquerai une détérioration encore plus grande. » Lorsqu'on est malade physiquement, il faut, selon elle, devenir encore plus végétatif que le corps malade. Il s'agit d'un geste de respect et de soumission totale. C'est comme si on disait à son corps « Toi, tu sais, moi, je ne sais pas. » Je me fonds à toi, je me mets à ton service, au service de la vie cellulaire et des besoins primaires. À propos de guérison, il est aussi bon de garder en mémoire, comme le dit Liliane Reuter, que toute guérison véritable est de l'ordre de l'auto-guérison. Il s'agit d'une guérison à laquelle la conscience participe, en donnant la permission aux cellules de se régénérer. Peu importe si l'on guérit, avec des médicaments chimiques ou naturels, par des moyens classiques, psychologiques ou spirituels, ce qui compte, c'est de participer consciemment à sa propre guérison. C'est de solliciter de façon consciente la réponse de son corps au traitement. Alors nous faisons l'expérience que nous avons la possibilité de stimuler les forces régénératrices qui dorment en nous. Ce point est capital, et j'espère l'avoir assez souligné dans ce livre, qu'il ne sert à rien d'attendre une pilule magique qui vienne du Nouvel Âge ou du Moyen Âge, ou d'une relation exceptionnelle pour être sauvé de soi-même. Se réveiller, devenir présent à soi et à ses propres potentialités oubliées, voilà ce à quoi chaque souffrance nous invite.
Des fois, je me dis que les plantes communiquent, qu'elles ressentent l'intention, qu'elles perçoivent le danger et se transmettent l'information, qu'elles ont chacune un rôle, une fonction principale, et que l'homme néglige bien trop l'intelligence végétale. Je crois en une énergie qui parcourt l'univers, qu'on appelle le chi, le prana ou bien les ondes scalaires, et qui circule partout, dans le vivant comme dans la pierre, et dont seuls les plus connectés ont percé le mystère. D'ailleurs, les pyramides en étaient certainement les capteurs, et des Mayas jusqu'aux Celtes, on en adulait la grandeur, le nombre d'or, pi, la vitesse de la lumière et le maître. Qu'ont-elles encore à nous transmettre, à nous qui nous sentions déjà si petits et si seuls devant l'apparition magique d'un immense crop circle. Mais bon, Dieu merci, toutes ces théories ne tiennent pas debout. Aucun doute, je suis fou. Si je crois en une énergie que l'on retrouve partout, je suis fou. Un collier de 108 perles autour de mon cou, je suis fou. Il y a l'amour, la source, ainsi qu'une autre force en nous, je suis fou. Quand je dis que nous ne sommes qu'une infime partie d'un grand tout. Et si la pensée ne provenait pas de nos têtes, mais de quelque part, un peu plus loin, ce qu'on appelle l'âme peut-être. Et si nos plus lointaines erreurs dataient des Sumériens, ce que ne disent pas les tablettes, ni les historiens, je ne sais rien. De tous les dieux et de tous les maîtres dans les légendes d'antan, quelle est la part de métaphore dans l'Ancien Testament? J'ignore tout de la physique quantique et des secrets d'Elohim, ou du pourquoi de ces vestiges et de ces crânes humanoïdes. Mais je sais que l'eau a une mémoire, qu'elle peut nous guérir. Chacun de nous a des pouvoirs qui lui appartient d'acquérir, celui d'apprendre à élever sa fréquence de vibration. Chaque être humain ici-bas est guérisseur à sa façon. Et s'il y a de la vie ailleurs qu'à la surface de la terre, qu'est-ce que j'y peux si Lucifer signifie le porteur de lumière? Une autre vision des choses, mais qui ne tient pas debout. C'est certain, je suis fou. Si je crois en une énergie que l'on retrouve partout, je suis fou. Un collier de 108 perles autour de mon cou, je suis fou. Il y a l'amour, la source, ainsi qu'une autre force en nous, je suis fou. Quand je dis que nous ne sommes qu'une infime partie d'un grand tout. Je lève les yeux au ciel, contemple les détails. Je voulais réciter des mantras, mais je compte plutôt les chemtrails. Puisqu'on modifie le climat, excluant toute logique, on cherche à contrôler le peuple grâce aux nanotechnologies. Heureusement, dans un entre-deux qui peut paraître flou, dans les moments les plus délicats, les ovnis veillent sur nous. Paraît même qu'ils nous escortent chaque fois que l'on transporte la bombe. Moi je ne suis qu'un humain, et parfois j'en ai honte. Et peu importe où se trouve cette foutue vérité, peu importe si la face cachée de la lune est réellement habitée, je sais bien qu'il existe des dimensions parallèles, qu'on ne sait rien de la théorie des cordes aux failles spatio-temporelles. Les trous noirs, l'homme augmenté, les cellules souches, les signaux qu'on tente d'envoyer à une lointaine planète rouge, non. Je prie pour que ce que je vous dis ne fasse pas sens pour vous. Laissez-moi croire que je suis fou. Si je
une énergie que l'on retrouve partout. Je suis fou. Un collier de 108 perles autour de mon cou. Je suis fou. Il y a l'amour, la source, ainsi qu'une autre force en nous. Je suis fou. Quand je dis que nous ne sommes qu'une infime partie d'un grand tout.
Une bulle pour guérir de Geneviève Laurencin. Il était une fois une petite sœur, et il était une fois une grande sœur à la santé fragile. Si fragile qu'elle partageait son temps entre la maison, l'école et l'hôpital. Et la petite sœur se croyait abandonnée. Elle se disait que sa grande sœur prenait beaucoup de place dans le cœur de ses parents, que sa vie n'intéressait personne, que ses paroles, ses gestes étaient sans importance. Comme des petites bulles d'air qui s'échappent et qui éclatent, sans laisser de traces. La semaine passée, quand il lui avait fallu aller, elle aussi, aux analyses, pour voir si ces petites cellules qui servent à fabriquer les cellules de son sang ressemblent aux bonnes cellules de sa grande sœur. Elle avait eu un peu peur de la piqûre, mais elle n'avait pas fait la comédie. Heureuse et fière, elle s'était enfin sentie, le temps d'un matin, redevenir quelqu'un. Souvent, en secret, elle gribouillait le même dessin, sur une feuille de papier blanc. Elle attachait sa grande sœur à des milliers de ballons, de toutes les couleurs. Bleu, rouge, jaune, vert. La faisait lutter contre le vent et disparaître à jamais derrière de gros nuages noirs. Des gouttes de pluie frappaient son visage. Elle avait mal. Elle s'en voulait. Sur son dessin froissé, la petite sœur pleurait. Et puis un soir, à l'heure du câlin, la nouvelle tomba. La grande sœur restée à l'hôpital ne reviendrait pas de sitôt. Les médecins espéraient bien la guérir, en tentant sur elle quelque chose d'un peu compliqué à comprendre, une greffe de moelle. Guérir, la grande sœur serait guérie. Tout allait redevenir comme avant, avant la maladie. On vivrait léger, on retrouverait l'élan des jeux, des projets, des sorties. La petite sœur sourit. Elle ne posa pas de questions. Certes, elle n'avait pas pu tout comprendre, son papa et sa maman jugèrent bon de ne pas lui en dire davantage. Demain, au petit déjeuner, ils parleraient tranquillement, tous les trois. Seule, la petite sœur ne trouvait pas le sommeil. Des points d'interrogation se mirent à chahuter dans sa tête. Elle connaissait, elle avait vu faire au printemps, son grand-père. Avait devant elle greffé un jeune pommier, qui se développa très bien, mais donnait des pommes trop acides. Sur son tronc, il avait fait une petite entaille, puis inséré un rameau, pris sur un autre pommier, qui, lui, produisait de bons fruits. Ainsi, dans quelques années, sur les branches de l'arbre greffé, on cueillerait de belles pommes, bonnes à manger, juteuses et sucrées. On fait donc pareil, enfin presque pareil avec les gens, se dit la petite sœur. Et la moelle, elle avait goûté, elle s'en souvenait. Elle n'avait pas aimé cette chose cuite, molle, toute grasse, nichée dans un os de pot-au-feu, un os d'animal. La nuit qui suivit fut peuplée de cauchemars. Dans le parc de l'hôpital, on mutilait, on tronçonna les arbres, on brûlait, on saccageait les haies, les massifs, les bosquets. Et sur ces terres désolées prenaient vie des centaines de personnages étranges, immenses, jamais vus nulle part, tous identiques. Des grandes sœurs métamorphosées, reconnaissables à leur seul visage. Des grandes sœurs au tronc de chêne, aux bras de sol et aux mains de fougère. Aux jambes de cyprès, aux pieds de lavande, la tête coiffée de branches de sapin. Des grandes sœurs greffées, ancrées dans la terre. Curiosité d'un incroyable jardin qui, soudain, disparaissait, s'effaçait. Sous une nuée d'oiseaux, une horde de bêtes sauvages qui ne trouvaient pas leur nid, leur repère, leur terrier, qui devenaient fous et se battaient si violemment que chirurgiens, médecins, infirmiers, alertés, les faisaient tous prisonniers. Tous retenus pour donner un élément de leur corps, un organe, et l'un d'eux choisit pour sauver la grande sœur. Et la grande sœur greffée guérie, la grande sœur aux immenses ailes déployées, revenait à la maison, fondée sur le toit,
ébranlant avec force les plafonds, les murs, les cloisons. Effrayée, la petite sœur se réveilla. Assise en lotus sur son lit, elle était en sueur. Son cœur cognait, sa chemise collée à sa peau. Elle appela ses parents, leur expliqua ce qu'elle avait vu, entendu. Demanda si tout ça était vrai. Et sa maman la prit sur ses genoux, l'entoura de ses bras, la calma, la rassura. Celui qui sauvera la grande sœur lui donnera quelques petites cellules, petites perles de sa moelle. Ce sera un être humain, pas n'importe qui. Et la petite sœur voulut en savoir davantage. Sa maman balbutiait, cherchait ses mots. Sans plus attendre, son papa, la voix changée, lui demanda si elle se souvenait d'être allée un jour au laboratoire pour décider du meilleur traitement pour sa grande sœur. Et la petite sœur se souvenait. On ne lui avait pas dit tout à fait ça, mais ça devait revenir au même. Sans elle, sa grande sœur pouvait-elle mourir ? Un long silence s'ensuivit. Un beau silence tout blanc. La petite sœur se dégagea des bras de sa maman. D'un bond, debout sur son lit, on lui dit sur un podium après une victoire. La petite sœur avait tout compris. C'était elle qui allait donner à sa grande sœur ce qui était là dans son os, tout près de sa peau. Un os de sa jambe, pour la faire courir vite. Ou celui de sa main, pour l'aider à ne pas fatiguer ses doigts au piano. Ou celui de son épaule. Bientôt la grande sœur reviendrait la chercher à l'école et lui porterait son cartable. Ou aussi, ou peut-être, impossible de l'arrêter. Ses parents, ils n'avaient pas eu à parler, à expliquer, à lui demander si elle acceptait. Elle ne savait pas encore, la petite sœur, qu'elle devrait elle aussi rentrer à l'hôpital, qu'on l'endormirait, pour faire ce prélèvement juste quelques heures avant que son don, précieuse petite cellule de vie, ne soit transmis à sa grande sœur. Cela ne l'intéressait pas d'apprendre déjà comment les choses se passeraient. Peut-être préférait-elle ne pas savoir. Ce même matin, la petite sœur dessina. Elle rattrapa ses milliers de ballons, bleus, rouges, jaunes, verts, lancés si souvent dans le ciel. Sur une feuille de papier blanc, elle en fit une robe de bal, elle en habilla sa grande sœur, et la grande sœur se mit à danser. Et la jupe, les jupons, les dentelles, les festons à tourner vite, de plus en plus vite, mêlant, confondant joyeusement les couleurs. Autour de la grande sœur, pour la protéger, une bulle de lumière se levait, une lumière pure, blanche, transparente. Le blanc de l'aube, l'aube de la guérison.
Merci à vous pour votre écoute. Parcourons chacun et chacune notre propre chemin de guérison.